Réplique, Alain revisité, avec Emmanuel Blondel et Michel Onfray. Je ne suis pas, je l'avoue, un grand lecteur d'Alain. Sa philosophie du radicalisme m'est tout à fait étrangère. Je ne crois pas, je n'ai jamais cru, que l'idée centrale de la politique soit l'opposition permanente et inévitable des citoyens et des pouvoirs. Comme Raymond Aron, je considère même cette idée comme néfaste pour les régimes de liberté. Un des livres d'Alain, cependant, fait partie de ma bibliothèque idéale, les propos sur l'éducation. J'y reviens sans cesse, je le lis et le relis, car cet ouvrage est une source de réflexion et d'inspiration inépuisable face à ce qui m'apparaît comme les dérives du pédagogisme. Mais voici que paraît, dans une édition établie et présentée par Emmanuel Blondel, le volumineux journal qu'Alain a tenu entre 1937 et 1950, alors qu'il était malade, torturé par des rhumatismes, et qu'il avait l'essentiel de son œuvre derrière lui. Michel Onfray commande ce texte inédit dans un essai qui est un véritable brûlot, Solstice d'hiver. On lit dès les premières lignes que le journal d'Alain contient des informations qui vont ruiner définitivement la réputation du philosophe. Quelles informations, Michel Onfray ?
Deux mots pour vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur la politique d'Alain. Je la trouve très intéressante. Le citoyen contre les pouvoirs, les propos politiques, les éléments d'une doctrine radicale, ce sont pour moi des grands textes.
Ça m'intéresse beaucoup parce que nous y reviendrons.
D'accord.
Je suis très content que vous disiez ça. Ça fera l'objet d'une partie de la discussion, oui. Je vous le promets.
C'est l'homme qui est invité à tirer la barbe à toute majesté. Donc, j'aime beaucoup Alain. Et je l'aime beaucoup toujours aujourd'hui, après avoir découvert ce que j'ai découvert dans ce journal. J'avais été invité aux amis d'Alain à Mortagne, qui est son lieu de naissance, dans le Perche, dans l'Orne, à faire une conférence sur Alain. Et effectivement, à l'époque, je venais de lire, c'était 1985, je crois, une biographie de Cernin qui s'appelait Alain, un sage dans la cité. C'est Cernin, hein, et qui disait que le journal était une espèce d'explosif, et il y avait quelques extraits de ce journal qui étaient assez terribles. Notamment cet extrait dans lequel Alain fait savoir qu'il préférerait que Hitler gagne plutôt que ce fameux général de Gaulle. Et on m'avait reproché d'avoir fait usage de cette référence en me disant « Mais vous faites usage d'une référence dont vous n'avez pas les citations exactes, il y a un contexte, vous sortez ça d'un très gros volume, c'est inédit, vous dites n'importe quoi, vous faites dire n'importe quoi à Alain. » Et j'avais convenu qu'effectivement, peut-être je m'étais trompé, que des citations extraites d'un contexte ne méritaient pas d'être reprises telles quelles. Pourtant, la biographie était faite par un défenseur d'Alain. C'est pas quelqu'un qui accablait Alain. Et donc, je suis allé voir ce journal, qui était un gros volume qui se trouvait à l'époque aux Amis d'Alain à Mortagne. Et puis, j'ai compulsé, j'ai pas tout lu, mais je m'étais dit, il faudrait qu'un éditeur puisse faire paraître ce journal inédit, parce que ça me paraît très intéressant. Et quand l'éditeur a fait savoir qu'il publiait, cet éditeur a fait savoir qu'il publiait, il m'a demandé une préface. Alors évidemment, il y a 1000 pages sur tout sujet. Il est question de Dickens, de Stendhal, il est question de George Sand, il est question de littérature, il est question de la poésie de Mallarmé, il est question de la phénoménologie de l'esprit, de la science de la logique, de Hegel, et on voit bien qu'Alain a toute sa tête, contrairement à d'aucuns qui nous disaient « ce journal ne mérite pas d'être édité parce qu'il avait perdu la tête ». Et il a dit des choses qui relevaient de la sénilité, de la maladie. C'était une maladie articulaire, ça ne touche pas le cerveau était intact, et on voit bien dans ce journal qu'il dit des choses très pertinentes sur la phénoménologie de l'esprit, sur la science de la logique, et que l'argument du « c'était un auteur sénile » ne tient pas. Alors que trouve-t-on ?
Il lisait la traduction d'Hippolyte,
oui,
la traduction par Jean Hippolyte, de la phénoménologie de l'esprit, et il commande cette traduction, voilà. En effet.
Et très justement, très bien, enfin, on voit bien que le cerveau fonctionne à plein régime. Qu'est-ce qu'on trouve de terrible dans ce journal ? Des propos antisémites d'un individu qui nous dit qu'il est antisémite, qu'il aimerait bien ne pas l'être, mais qu'il ne peut pas s'empêcher de l'être. Il dit des choses terribles sur des collègues de travail. Alors on peut imaginer que Alain, qui disait effectivement qu'il fallait tirer la barbe à toute majesté, qu'il fallait ne pas aimer les sorbonnagres, les puissants, etc., avait quand même envie de Sorbonne et avait quand même envie de Collège de France. Et il fait savoir que quelques-uns de ses collègues qui ont obtenu la Sorbonne et le Collège de France ont obtenu ces postes-là parce qu'ils étaient juifs. Il nous fait savoir qu'ils ont un rapport au travail, un rapport à la réussite qui n'est pas le même que le sien. Il nous fait savoir qu'il a des amis juifs, mais que, comme Léon Blum, mais qu'en même temps, il ne peut pas s'empêcher de traiter quelques-uns de sales juifs. Et puis, sur la totalité de ce journal, eh bien, effectivement, on assiste à une description de la guerre faite par un pacifiste qui a décidé qu'il le serait jusqu'au bout et qui préfère la paix à tout. En oubliant que préférer la paix, c'est préférer la paix que Hitler aurait imposée à l'Europe par les armes. C'est donc une espèce de paradoxe. On voit chez cet individu qui dit clairement qu'il est antisémite, qu'il fait une lecture de Mein Kampf dans lequel il ne tarit pas d'éloges à l'endroit d'Adolf Hitler. Il est grand, il est beau, il est puissant, il est fort, il est intelligent, il lit des choses magnifiques, il va falloir compter avec lui. C'est quelqu'un qui a compris que les foules ne se maniaient pas avec la raison et avec l'intelligence, mais avec la passion. Enfin, et Alain souscrit à tout ça. C'est-à-dire que il nous dit par exemple que le général de Gaulle ne devrait pas gagner dans cette aventure, pas un mot sur la résistance. Il nous dit de l'occupation que c'est pas tellement une occupation, que finalement les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est d'avoir à boire et à manger, et que finalement ils se moquent du reste. Il nous fait savoir qu'il va falloir désormais penser la politique à partir de ce que l'occupation, qui n'est même pas comme telle, mais la fameuse occupation, comme il nous dit, nous aura appris. Et rien qui puisse être positif, rien pour la résistance, rien pour le général de Gaulle, rien sur l'appel du 18 juin, rien sur le débarquement, rien sur tout ce qui se passera par la suite, l'épuration. Le journal se termine en 50 et il aurait pu effectivement parler de l'épuration. Rien de tout ça. Et pas un moment critique lui permettant de dire qu'il s'est trompé, même si dans le journal, on voit bien qu'à partir du moment où les Américains arrivent, bah finalement, il va un peu du côté des Américains en disant qu'ils sont formidables, que cette démocratie-là est extraordinaire. Il nous dit même que Furtwängler a eu des problèmes aux États-Unis et que c'est pas bien d'agresser les Juifs, mais pas un mot de regret. Et quand il doit, à l'époque, préfacer un texte écrit par quelqu'un qui a été franchement collaborationniste, il ne refuse pas sa préface qu'il donne à cette œuvre-là. Donc évidemment, il n'y a pas...
C'est l'œuvre de qui ? René Château, d'accord.
Qui s'appelle Abel. Enfin, oui. qui s'appelle Abel et qui est un titre qui renvoie à Cain. Mais donc, on se dit, voilà, un personnage qui n'a rien tiré comme leçon de ce qu'il aura vécu, parce qu'on peut se tromper, dans un journal qui n'est pas forcément destiné à la publication.
Oui, c'est un journal qui veut
rendre public. Voilà, on peut dire, bon, j'ai pas bien vu, j'ai mal vu. Il nous dit quand même que Pétain est plutôt sympathique et que le général de Gaulle est plutôt antipathique. Enfin voilà, des choses qui effectivement sont terribles. Alors ça n'invalide pas l'œuvre complète d'Alain, entendons-nous bien, mais ça reste tout de même assez terrible.
Très bien, alors je vais donner trois citations avant que Emmanuel Blondel prenne la parole. Trois citations en référence à ce que vous avez dit. Celle-ci d'abord, quand même très intéressante, de janvier 38, je crois. « Je voudrais bien, pour ma part, être débarrassé de l'antisémitisme, mais je n'y arrive point. Ainsi, je me trouve avec des amis que je n'aime guère, par exemple, Léon Blum. » Première citation, « Il veut en être débarrassé, il n'y arrive pas. » Deuxième citation, terrible, « Pour moi, j'espère que l'Allemand vaincra. » Car il ne faut pas que le genre de Gaulle l'emporte chez nous, ça c'est en 40. Et puis aussi, quand même, la même année je crois, il faut que j'ajoute que la violence hitlérienne m'a toujours révolté et que jamais je n'ai espéré ni désiré les pogroms. Voilà, mais Emmanuel Blondel, que répondez-vous à ce réquisitoire ?
Oh, il faudrait répondre beaucoup. On ne s'est pas entretenu avec Michel Onfray de sa préface, ni du contenu, etc. Il y a des passages que je trouve indéfendables chez Alain, mais je ne reconnais absolument pas l'Alain même, celui du journal, dans le portrait qui en est fait là. Il faudrait prendre des exemples pour partir. Prenons les choses à l'envers, puisque vous avez commencé par là. Prenons la préface à René Château. C'est une préface qu'effectivement René Château lui demande en 47. René Château a été compromis dans la collaboration. Il est probable qu'il cherchait d'ailleurs chez Alain une espèce de caution, parce que c'était un précis de sociologie, c'était quand même un ouvrage. Lui, il le signait René Château, celui-là, Abel, c'est autre chose. Alain écrit une préface qui attaque dans René Château sa soumission à la collaboration. C'est-à-dire qu'il dit, vous n'aviez pas le droit de vous comporter comme vous l'avez fait pendant la guerre. Et René Château, dire qu'il rajoute une introduction à cette préface, est obligé de dire, bon, chacun peut avoir son avis, moi je continue quand même, cette préface est à charge, il faut la lire. Et Alain dit, quand il y a des situations comme ça, on n'a pas le droit de se comporter comme vous l'avez fait, c'est-à-dire de jouer le jeu de la collaboration. Si je remonte, on parlait d'Hitler tout à l'heure, je regrette, et là il faudrait lire de près, il n'y a pas une once d'approbation de Alain par Hitler. Il y a, le problème, c'est qu'Alain lit Hitler. D'abord, il le paraphrase beaucoup. Alors, souvent, on prend pour des affirmations d'Alain ce qui est simplement le fait qu'il raconte ce que Hitler est en train de développer. Et quand Alain dit qu'Hitler est efficace, je ne crois pas qu'en 40, on puisse lui dénier une certaine efficacité, qu'il a réussi à construire une puissance et qu'il a réussi. Il dit d'ailleurs, il faut comprendre cette force, comme il dit, qui vient de nous passer sur le corps. Il n'y a pas d'approbation. Lorsqu'Alain constate, c'est une espèce de... On a dit qu'il préférait la défaite. Non, il dit à un moment, c'est son sentiment, et ça c'est une erreur. Il dit, nous sommes vaincus à ne pas pouvoir espérer une revanche. Alain croit constater l'absolue défaite de la France. Et s'il proteste contre De Gaulle, c'est qu'il dit, la cause est perdue, pourquoi encore des morts alors que la défaite est consommée? Il ne faut pas, sinon je termine, enfin, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'antisémitisme, il ne faut pas confondre cette espèce d'analyse qui n'en tient aucune adhésion avec justement une sympathie ni pour Hitler, ni pour Vichy, encore moins pour la collaboration dont il ne parle pas.
Oui, quand vous dites pas de sympathie pour Hitler, c'est vrai, Emmanuel Blondel, il n'empêche, beaucoup de gens ont reproché, notamment en Allemagne, à des intellectuels, etc., de ne pas avoir lu Mein Kampf, parce que c'était un texte horrible. Et en effet, or, Alain le lit avec une sorte d'équanimité. Il n'approuve pas, il analyse, mais on ne sent pas l'indignation du tout. On ne sent pas la stupeur devant la violence d'Hitler. Et c'est vrai, c'est une, si vous voulez, une froideur, une impassibilité qui est tout à fait surprenante. Et quand bien même, d'ailleurs, Alain choisirait la voie du pacifisme, ce qui peut s'expliquer, et nous en reparlerons. Emmanuel Blondel.
C'est plus que de la froideur, là je vais aller dans le sens de Michel Onfray, c'est, comment dire ça, je vais pas dire du plaisir. Alain est quelque part heureux d'enfin comprendre. On voit d'ailleurs que il s'est beaucoup intéressé entre guillemets à Hitler dans l'avant-guerre. Il a essayé de comprendre ce qui se jouait. Il a lu le livre qui s'appelait de Rauschning, la Hitler m'a dit sur la politique extérieure. Il dit on comprend rien, ça fait rien comprendre. Là, pourquoi il est heureux, c'est qu'il a l'impression de comprendre. En particulier, il comprend une chose qui nous semble aller de soi pour nous, mais qui n'est pas du tout évidente à l'époque, c'est que dans la politique d'Hitler, d'une part, l'assujettissement de l'Europe est programmatique. Et l'antisémitisme est le cœur et le principe organisationnel de sa politique. Pour Alain, avant-guerre, Hitler est un tyran qui se trouve être antisémite. Ça ne fait pas de l'antisémitisme le cœur d'une politique. Ce qu'il comprend dans Mein Kampf, c'est que c'est le cœur de sa politique. Et il est, entre guillemets, content de pouvoir le comprendre. Parce qu'enfin, il se dit, voilà, maintenant, nous avons entre les mains, avec Mein Kampf, et effectivement, il referme le livre en disant, nous aurions dû lire ça auparavant. C'était pas facile de se procurer Mein Kampf avant-guerre. Les autorités allemandes interdisaient la diffusion des traductions en français.
Il y a eu une traduction française qui était faite, hein, avec les textes...
39.
Non, mais on pouvait très bien, facilement, il lisait l'allemand, il était susceptible de pouvoir commander le livre et de le lire intégralement.
On m'a dit qu'on fait les études Emmanuel Faye et tous les gens qui travaillent autour de lui, qu'il n'était pas du tout évident de se procurer Mein Kampf et que c'était Boucher qui avait réussi à lui le procurer et qu'Alain, on a été heureux. Bon. Il l'a lu quand il pouvait. Quand il pouvait, il a l'impression de découvrir le vrai Hitler, qu'évidemment les discours de Hitler ne lui livraient pas avant-guerre. Et il comprend enfin, effectivement, à ce moment-là, il dit, si on avait su ça, alors toutes nos illusions s'écroulaient, il fallait prendre Hitler autrement, si on l'avait su.
Michel Onfray.
Bah, écoutez, moi, je suis obligé de reprendre mon livre parce que là, ça va être citation contre citation. Il y a quand même des moments où vous dites qu'il ne souscrit pas Hitler, il fait de la paraphrase. Non, il y a des jugements de valeur qui sont quand même très précis. Il nous parle de l'éloquence extraordinaire du personnage. Il nous parle de la remarquable sincérité d'Adolf Hitler. Ce sont des jugements, ça, c'est pas une paraphrase. Quand quelqu'un comme Alain dit d'Adolf Hitler qu'il a une éloquence extraordinaire et qu'il est d'une remarquable sincérité, il dit, par exemple, que sa pensée est architectonique parce qu'il n'a pas été peintre, mais qu'il a été architecte. Il dit, Alain, il choisit ce métier avec tant de clairvoyance que je devine comment son esprit l'esprit s'est formé, par l'architecture, c'est-à-dire par l'art où il n'y a point de semblant, par l'art qui fait tenir pierre sur pierre d'après une expérience très connue et en vue de fin très claire. Je crois que c'est ainsi que pensa ce penseur extraordinaire. C'est pas un jugement de valeur, ça, ce penseur extraordinaire. Alain écrit d'Adolf Hitler qu'il est un penseur extraordinaire.
Oui.
Il fit des châteaux, des tours et des ponts, résonnant toujours sur le poids, la poussée, la résistance de la matière. Il forma ses idées d'après les expériences les plus simples de l'équilibre social. Il ne cessa de construire et d'essayer la solidité de ses constructions. C'est une pensée physique, c'est-à-dire fondée sur l'expérience. Mais entendez bien, sur l'action. Tout ce qu'il pense a été essayé par lui avec un sérieux admirable. Un sérieux admirable. Ça s'appelle un jugement de valeur.
Fou.
Et ça ne s'appelle pas une paraphrase. Et la conscience d'un homme qui assure chacun de ses pas de façon à ne point tomber. Aucune instruction abstraite ne le détourne de cette expérience. D'après ce départ, je comprends qu'il devait dominer le problème militaire qui est un problème de construction. Il dit un petit peu plus loin. Et voilà comment pense un Hitler. Il est bâti pour faire la leçon aux généraux. Il est le contraire d'un polytechnicien, ce qui est un éloge dans la bouche d'Alain, on le sait bien. Car jamais il ne remonte à un principe abstrait, toujours il applique force sur force. Il pense directement à l'expérience et cette méthode si simple devient rare par le développement de l'esprit calculateur déductif. Et voilà cet esprit moderne. Il parle d'Adolf Hitler. Mmh. Cet esprit invincible, il parle d'Adolf Hitler. Je m'en tiens à ces précieuses remarques. Enfin, et il y a d'autres textes. Donc quand vous dites effectivement qu'il n'y a pas de jugement de valeur, à un moment donné, il dit « je conclus provisoirement par ce que dit Hitler, il faut savoir parler aux masses et les persuader, c'est là qu'est le ressort démocratique ». C'est là qu'est le ressort démocratique. L'orateur est libre de ce développement, de ses sentiments, de ses mouvements, et cela même nie le tyran en tout orateur véritable. Soyons donc orateurs. Voilà quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des paraphrases. Il nous dit que c'est un penseur invincible, que c'est un penseur extraordinaire, que c'est un orateur authentique et que finalement, en matière de démocratie, on n'a pas besoin de principes, on a juste besoin de quelqu'un qui sache gouverner les masses, les conduire et les diriger. Moi, on m'aurait fait lire ça à l'aveugle, un peu comme on déguste un vin à l'aveugle, en me disant de qui sont ces pages. Je n'aurais jamais pu trouver que ce soit des pages d'Alain. Ce pacifiste qui veut la paix à n'importe quel prix veut la paix, y compris avec la guerre d'Adolf Hitler, quand il estime qu'on pourrait même envoyer des gens en Angleterre pour les pacifier de façon à ce qu'on ait enfin cette paix, plutôt une paix avec Adolf Hitler qu'une guerre avec le général de Gaulle. Donc ce ne sont pas des paraphrases, c'est quand même un accord de principe qu'il donne à Adolf Hitler en nous disant qu'il est un penseur extraordinaire.
Lorsqu'Alain parle de la remarquable sincérité d'Adolf Hitler, il pense en particulier en contraste avec tout ce qu'Adolf Hitler a développé auparavant. Les diplomates, les politiques en général masquent leur véritable pensée. L'avantage de Mein Kampf, c'est qu'Hitler y parle à visage découvert. On ne peut pas dire « je crois le contraire ». Je ne peux pas dire, enfin, vous ne me direz pas le contraire. Est-ce qu'Hitler, oui ou non, a réussi à monter de toutes pièces une puissance politique et à remonter la puissance d'un État qui a quasiment réussi à asservir l'Europe au milieu du XXe siècle ? Oui ou non, est-ce un homme qui a eu une puissance, une éloquence extraordinaire et qui a réussi à construire une puissance, à bâtir une puissance à laquelle mais personne, d'une certaine manière, ne pouvait s'attendre. Est-ce que c'est en faire un éloge ? Je vous rappelle une formule d'Alain qui était dans un propos de, je crois, 1935. « J'ai dit, parce qu'il l'avait dit, et on lui avait reproché qu'Hitler était un grand chef, je plains les peuples qui ont de tels chefs. » Mais ce n'est pas une approbation. Le fait est, enfin, je ne vois pas comment on pourrait nier qu'Hitler a développé une puissance sur l'Allemagne et une puissance de l'Allemagne, à nul autre pareil, par son éloquence et par, effectivement, sa pratique de la politique extraordinaire. Vous ne me diriez pas que c'est un politicien comme les autres.
Mais comment expliquez-vous, justement, cet effort de compréhension de la part d'Alain, qui ne vaut pas approbation, et d'un autre côté, cette critique de Gaulle. De Gaulle, pour lui, c'est précisément la voie qu'il ne faut pas suivre. Et là, il ne cherche pas à analyser et à comprendre, parce que De Gaulle, effectivement, engagerait la France à continuer la guerre. Et pour Alain, comme beaucoup d'autres pacifistes, qui peut s'expliquer, hein, après la terrible saignée de 14, eh bien, la paix est un bien préférable à toute forme de résistance.
Je crois que, d'abord ce passage, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, me semble encore très énigmatique. Mais prenons-le comme nous l'entendons aujourd'hui, ça me gêne pas. Nous sommes en juin 40. De l'avis d'Alain, et là je suis prêt à dire c'est une erreur, vous savez, on dit souvent il était au courant de tout, vous-même vous l'aviez dit, En fait, non, c'est pas un reproche que je vous fais, parce que j'ai retrouvé en fait des parties de l'almanach où on s'aperçoit que pendant des semaines, ils sont privés de toute nouvelle. Et par exemple, à un moment, ils partent à Ville-d'Avray avec Monique, ils reviennent, ils disent « Ah, mais en fait, la guerre n'est pas finie », ils apprennent 3 semaines après que l'Angleterre a continué, ils n'en savaient rien. Bon, peu importe. Lorsqu'il écrit ce texte, donc on est en juillet 40, Alain a le sentiment, je pense que ce sentiment était assez partagé, que la guerre est perdue. C'est pas une question de pacifisme, c'est-à-dire, c'est pas la question de savoir si la guerre contre Hitler, ça à la limite, ça serait Munich par exemple, on se dirait, ben, est-ce qu'il faut faire la guerre ou non, on va choisir, non, il faut
la différer.
Il a été d'une certaine manière, non seulement munichois, mais en amont de Munich, puisqu'il a écrit à Daladier, à Blum, à De Monzy, à Monet, etc., pour les inciter à rester fidèles à la politique de l'Angleterre. Et donc ça, c'est juste avant les accords de Munich. Et il s'est réjoui des accords de Munich. Mais là, il s'agit pas de déclencher la guerre ou non. Nous sommes vaincus. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que non seulement, évidemment, la guerre est quelque chose de terrible, mais qu'en plus, là, elle est totalement inutile. Sa phrase exacte est « Nous sommes vaincus à ne plus pouvoir espérer une revanche ». C'est son avis. Pourquoi continuer la guerre quand on a perdu et que tous ces morts seront considérés comme absolument inutiles ? Évidemment, l'histoire lui donnera tort. Mais ce n'est même pas, je dirais, une affirmation de pacifisme contre un recours à la guerre. C'est l'attitude d'un vaincu qui dit, si on est vaincu, arrêtons de faire mourir les jeunes pour rien.
Très bien, mais alors, justement, d'ailleurs, il a sur Munich, l'entrée du 29 septembre 1938, de son journal, il dit, j'ai vu des événements admirables, le dernier, c'est la réunion des 4 chefs d'État à Munich. Mais justement, là, je me tourne vers vous, Michel Onfray. Pour nous, la situation est confortable, nous savons ce qui s'est passé, et nous ne sommes plus du tout dans la situation de l'entre-deux-guerres. Or, à ce moment-là, un certain nombre de gens s'appuyaient sur les leçons de l'histoire récente pour justifier leur pacifisme. Que disaient-ils ? En 1914, les alliances nous ont mené à notre perte, et nous ont mené à l'accord, à la guerre. Et c'est une réflexion de Thibaudet. Quelquefois, quand une cordée est attachée, ça sauve les alpinistes, mais après, quand il y a quelqu'un qui tombe, tout le monde tombe. Donc il faut savoir couper la corde. Et effectivement, les gens, en 38, se sont dit, on va couper la corde avec les Tchécoslovaquies, comme ça, on n'entrera pas en guerre, et on ne réitérera pas l'erreur fatale de 14. C'est un raisonnement que nous devons remettre en cause, mais justement peut-être en adoptant une autre posture que celle du procès rétrospectif, en nous disant nous avons à affronter un certain nombre d'événements historiques, soyons à la hauteur plutôt justement que de faire comparaître au tribunal du présent, nous qui savons tout, les acteurs d'hier qui tâtonnaient, qui étaient dans le brouillard, comme dirait Kundera, et qui, croyant s'appuyer sur les leçons de l'histoire, commettaient une erreur funeste.
Oui, Michel Onfray. Oui, vous avez complètement raison. Bien sûr qu'il ne faut pas, sachant ce que nous savons aujourd'hui, juger de ce qui aura été écrit à l'époque. Toujours est-il que Alain est un philosophe qui s'occupe de politique, qui a même eu le souci de, avec ses propos, qui est une forme que je salue, parce que c'est une façon, disait-il, de faire entrer la métaphysique sur le terrain du journalisme, ou le journalisme sur le terrain de la métaphysique, et ça fait de Alain quelqu'un qui lisait les journaux, qui écrivait dans les journaux, et qui nous dit dans son fameux journal qu'il était au courant parce qu'il lisait les journaux. Donc à l'époque, il y a quand même des trains, on se déplace, et que quand on s'en va en Bretagne, c'est quand même pas au fin fond de l'Amazonie, et quand on a fini son voyage, on peut acheter le journal et être au courant, et de 1933, 30 janvier 33, quand Hitler arrive au pouvoir, jusqu'aux années 40, jusqu'au 18 juin, un homme qui écrit dans les journaux et qui lit les journaux ne peut pas ignorer ce qu'est la politique d'Adolf Hitler, concrètement. On n'a pas besoin d'avoir lu Mein Kampf pour avoir une idée sur Adolf Hitler. Quand on fait de la philosophie politique, qu'on lit les journaux, qu'on écrit dans les journaux, qu'on tient chronique et qu'on voit ce qui se passe du côté de l'Allemagne nazie. Donc moi je persiste à mettre ça en perspective avec son pacifisme jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'on comprend Céline, hein, dans le même esprit. On comprend aussi des André Breton qui sont dans une logique de délire complet, de l'explosion de tout avec le surréalisme. Enfin, tous ces gens qui ont connu la Première Guerre mondiale sont des gens qui se sont dit « plus jamais ça ». ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelqu'un en face qui s'appelle Adolf Hitler, qui lui aussi a connu la guerre de l'autre côté, l'a perdu et ne s'en est jamais remis, et a dit « je vais rendre à ce peuple allemand la fierté qu'il a perdue, simplement parce que le traité de Versailles était humiliant pour les Allemands, à qui on disait « vous allez payer, en même temps on va vous supprimer les moyens de payer, donc avec les usines qu'on leur confisquait, et ce genre de choses ». Donc Alain est quelqu'un qui aurait très bien pu, comme le général de Gaulle, et on peut renvoyer au texte de l'appel du 18 juin, le général de Gaulle dit « nous avons perdu par les forces mécaniques ». Nous avons perdu par les forces mécaniques, et sa résistance invite à une résistance spirituelle qui sera doublée, bien sûr, d'une résistance mécanique.
Oui, parce que une force mécanique supérieure nous permettra de l'emporter.
Voilà.
Il se place sur le double
Absolument.
Plan du réel, Absolument. De l'idéal et du réel.
Absolument. Et c'est ce qui fait la grandeur de De Gaulle. C'est-à-dire la théorie plus la pratique. Cette idée que on ne peut pas se permettre de dire, bah d'accord, la guerre est perdue, comme Alain le fait, parce qu'Alain est content que la guerre soit perdue du simple fait que, bah si, c'est du simple fait que la guerre étant perdue, eh bien, la guerre n'est plus là. Et cette obsession à dire plus de guerre, jamais de guerre, quoi qu'on fasse, il faut de toute façon empêcher et interdire les guerres, fait que quand on a en face de soi un Adolf Hitler, on peut revoir sa position et dire, mais c'est pas exactement la même chose. On sait à l'époque qu'il y a quand même des déportations, qu'il y a des convois. On ne peut pas faire semblant de dire, mais il a lu tardivement Mein Kampf, et puis en fait, c'était de la paraphrase. Non, il lit tardivement Mein Kampf, mais il l'agrée. Et précédemment, lui qui lit les journaux est très au courant de ce qui se dit à l'époque dans la presse. Il y a des collaborationnistes, ça existe, des gens qui sont d'accord et qui soutiennent cette dictature-là. Et Alain ne fait pas le choix du général de Gaulle. C'est-à-dire que la résistance spirituelle à laquelle appelle le général de Gaulle en disant que cette résistance spirituelle, il lui faudra bien sûr des armes et que le combat continue, c'est une position qu'il aurait pu avoir. Mais comme effectivement ça supposait qu'il y aurait des guerres et que Alain estime que les guerres, c'est un truc de juifs, c'est quand même ça qu'il faut dire. C'est cette idée que les Juifs et le capital sont associés chez Alain, que le génie est paysan, rural, et que c'est de ce côté-là qu'il faudrait aller voir. Mais dès qu'il y a de l'or, de l'argent, du papier monnaie, il y a des Juifs. Et dès qu'il y a des Juifs, il y a de la guerre. C'est quand même aussi à mettre en perspective avec l'antisémitisme d'Alain. C'est pas seulement une espèce d'antisémitisme lointain, c'est idéologique chez lui. Il estime que les Juifs sont des fauteurs de troubles, que ce sont des gens qui rendent possible la guerre, et que son refus de faire la guerre est à mettre en relation avec son antisémitisme. Il n'est pas question de faire la guerre des Juifs.
Emmanuel Blondel.
Il me semble que vous mélangez beaucoup de choses. mais quelquefois, enfin, en un sens, c'est ce qui vous rend convaincant dans le solstice d'hiver, à mon sens, quand on n'a pas lu Alain avant, c'est que c'est très bien construit, la construction, mais pour moi, c'est la construction d'un monstre. Quand on parle de cette guerre juive, en particulier, puisque vous faites mention que les Juifs, c'est la guerre, il y a un seul endroit qui peut permettre de penser une chose pareille, c'est ce texte que vous avez lu en entrée, cette guerre revient à une guerre juive, elle aura ses milliards et ses Judas Maccabées. Première chose qu'on remarque, si cette guerre revient le 18 juin 40, à une guerre juive, ça veut dire qu'une fois que la défaite de la France est consommée, cela devient une guerre juive. Si ça devient une guerre juive, ça veut dire que ça ne l'était pas au départ. Si elle ne l'était pas au départ, c'était donc autre chose qui était cause de guerre. En quel sens ça devient une guerre juive ?
L'antisémitisme dit ça depuis le début, avant que la guerre
n'ait
lieu.
Mais Alain ne dit pas que la guerre a été causée par les Juifs.
Mais qu'est-ce que ça veut dire une guerre juive, là ?
Alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, et je pense que dans la bouche d'Alain, de toute façon, Alain, c'est vrai, a des, ce que j'appelle une pulsion antisémite, c'est ce que j'appelle sa maladie honteuse, vous l'avez mentionné.
Il dit une maladie honteuse, oui, ça, j'y reviendrai.
Je ne sais pas si on peut appeler antisémite quelqu'un qui a des pulsions antisémites, qui les réfrène, qui se refuse à en donner quelque expression, ni publique, ni privée, excepté dans quelques pages d'un journal de vieillesse réservé à l'intime. Si Alain est antisémite à ce moment-là, Jaurès l'est 10 fois plus parce qu'il y a des textes publics de Jaurès qui sont antisémites, il y a des textes de gens qu'on reconnaît et qui sont antisémites. Il n'y a pas un texte public d'Alain où Alain ait donné lieu à une remarque antisémite. Il n'y a aucune trace d'une politique antisémite.
Je voudrais bien, pour ma part, être débarrassé de l'antisémitisme,
et voilà.
Mais je n'y arrive point.
Oui,
et ne dites pas qu'Alain n'est pas antisémite, il le dit lui-même qu'il l'est.
Alors attendez, mais, là-dessus, c'est très intéressant. Je voudrais en être débarrassé. Et je n'y arrive pas. Ça veut dire que l'antisémitisme, me semble-t-il, s'est propagé très au-delà du cercle des doctrinaires de l'antisémitisme. Barrès n'aurait pas pu prononcer cette phrase. L'antisémitisme était au cœur de son système de pensée, un système qui consistait à dire « la raison est enchaînée de telle sorte que nous passons tous dans les pas de nos prédécesseurs, il n'y a pas d'idée personnelle, hein, et donc, c'est, d'une certaine manière, chacun est en quelque sorte chaque individu s'abîme dans sa nation et dans sa race, ça vaut pour les Français, ça vaut pour les Juifs, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y en a que de relative. Or, Alain est lui-même un penseur, non de cette espèce d'absorption, mais un penseur de l'arrachement. C'est-à-dire, son idée de l'éducation, justement, c'est de réveiller les individus, tel est le but. Ce qui définit les individus, c'est la pensée, et penser, c'est défaire les liens, il le dit. Défaire notamment le lien familial, le lien biologique. Il faut sans cesse s'arracher pour penser et accéder précisément à une vérité universelle. Donc, on est à la fois pétrifié d'horreur et en même temps amené à se dire que la pensée d'Alain doit être, si vous voulez, doit être aujourd'hui encore légitimée comme telle, parce que c'est une pensée qui ne le dirige pas vers l'antisémitisme. Il est antisémite en dépit de sa philosophie. Donc sa philosophie est exempte d'antisémitisme et peut être lue comme telle. Mais d'un autre côté, on peut se dire, si un homme est antisémite alors que sa philosophie devrait le mener à tout autre chose, ça témoigne aussi de la force de l'antisémitisme dans la première moitié du XXe siècle en France. Alain peut rejoindre Barrès dans l'horreur des Juifs alors même que leur système de pensée s'oppose radicalement. Donc voilà pourquoi Michel Onfray, que ça ne peut pas ruiner complètement la réputation d'Alain, puisque comme philosophe, il reste, me semble-t-il, toujours aussi pertinent. Mais en même temps, comme vous, je pense que cet antisémitisme a quelque chose, si vous voulez, d'accablant, de décourageant.
Michel Onfray. Oui, ça, je suis d'accord. Il ne s'agit pas de brûler tout Alain en estimant qu'à partir du journal, il devient un personnage infréquentable et illisible. Donc je suis d'accord avec vous. Il faut au contraire, plus que jamais, le lire et savoir qu'il est véritablement. La raison pour laquelle Alain a des problèmes avec l'antisémitisme, c'est qu'il a des problèmes avec les antisémites, mais pas avec son antisémitisme. Et j'ai découvert dans le journal que Alain avait une haute idée de lui-même. Ça, j'ignorais. Mais finalement, c'est un personnage qui s'aime bien. J'ai écrit quelques beaux livres, j'ai quelques belles analyses, j'ai quelques etc. etc. Il dit des choses très sympathiques sur lui. Et ce qui le gêne dans l'antisémitisme, c'est que il devient un antisémite comme le français moyen est antisémite. Et il dit à un moment donné que ça le gêne. Parce que, il dit, j'étais de l'école un peu trop antisémite, arrêté seulement par mon horreur naturelle des antisémites, entendez les gros propriétaires de province comme ceux de Château-Gontier, où je fus précepteur en 1891. Donc, si l'antisémitisme est un problème pour lui, c'est parce qu'il y a des antisémites et que ce sont des notaires de province qui ne sont pas à la hauteur d'Alain qui est philosophe. Donc, il n'est pas du tout gêné par l'antisémitisme quand il dit j'aimerais bien ne plus être antisémite. Il se dit juste, je suis avec ces notaires de province que je déteste par ailleurs, qu'ils le sont, eux, pour de mauvaises raisons. Mais y aurait-il de bonnes raisons d'être antisémite, pour le coup? C'est la question qu'on peut poser.
Emmanuel Blondel.
Mais si vous aviez raison, Michel Onfray, il y aurait un texte où Alain approuve son propre antisémitisme. Or, il n'y en a pas. Il y a des textes où, très rares, où, entre guillemets, il n'y revient pas de manière critique. Dont ce texte que moi je trouve peut-être le plus ignoble du journal, que vous avez relevé aussi, sur les musiciens juifs. C'est qui la musique européenne se portera mieux quand les musiciens juifs auront cessé de se gratter en public. Alors ça...
C'est pas un truc d'antisémite.
Si c'est pas un truc d'antisémite, on se demande ce que c'est. Donc là, il y a une phrase sortie comme ça. Alors là, c'est un passage d'ailleurs qui m'étonne doublement. Non, c'est pas que je n'ai pas conscience qu'il y a des pulsions antisémites chez Alain, mais en plus, ça arrive à un moment du journal où on se demande vraiment ce que ça peut faire là. Parce que c'est un texte sur la Pentecôte et on voit pas d'où ça sort, cette espèce d'éruption d'antisémitisme. Il y a ça. Mais il n'y a pas un texte où Alain revendique son antisémitisme. Quand il l'en parle, c'est toujours pour le déplorer. Vous avez cité dans votre livre les choses qu'il dit sur Bergson. Vous en faites sur le mauvais style de Bergson. Vous dites que c'est un jugement étonnant sur Bergson. Mais il ne juge pas le style de Bergson. Il dit justement, ce dont je me plains, c'est que je trouve le style de Bergson mauvais. Et je pense que si je le trouve mauvais, c'est parce que je suis antisémite. C'est-à-dire que sans doute que Bergson, il n'est pas aussi mauvais que ça. Mais moi, j'ai peur de le trouver mauvais parce que je suis antisémite. Pareil, il a un repas avec des gens au Pouldu, il passe une merveilleuse soirée, il disait, mais il y a un problème derrière, c'est l'antisémitisme, il n'a pas pu goûter sa soirée. Il le déplore en permanence. Vous ne trouvez pas un texte où il l'approuve et où il le justifie. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il est content de son antisémitisme, citez-moi un texte où il dit qu'il en est content. Pourquoi il se plaint des autres antisémites? Parce qu'il y a des antisémites qui ne se contentent pas d'avoir des pulsions antisémites, mais qui le traduisent en discours public et qui en plus en font une politique antisémite. Et ça, il est absolument rétif, il en est horrifié. Je rappelle juste une chose, deux choses. En 1934, le président de la LICA, qui n'était pas encore la LICRA, écrit à Alain en avril 1934, donc, en lui disant « Monsieur Chartier, nous organisons un grand congrès anti-antisémite et nous voudrions que vous y preniez la parole ». Alain ne se déplace jamais pour prendre la parole dans quoi que ce soit. Il répond à Lucas en disant « Je ne peux pas me déplacer ». De toute façon, il est effectivement en plus à ce moment-là malade et paralysé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les Juifs, en particulier dans les dieux, et je vous envoie joyeusement mon adhésion à votre projet. On va chercher Alain pour contrer l'antisémitisme. Voilà. Et il y a ces textes de 47, que vous avez cité la préface à Château, où il dit, face à ces attaques contre les Juifs, il fallait bondir. Soit dit en passant, on a dit Alain ne fait rien. C'est faux. En décembre 40, et là, vous parlez de collaboration, mais en juin 40, il n'y a pas de collaboration. La collaboration, c'est après l'entrevue de Montoire. À travers Montoire, il y a collaboration et la collaboration avec l'Allemagne. Que fait Alain en décembre 40? Il reçoit la visite de Boucher et il rédige avec lui une protestation au maréchal Pétain contre le sort fait aux pacifistes, aux francs-maçons et aux juifs. Et il rédige cette protestation en ajoutant la préparation d'un mémoire sur les inconvénients de la collaboration avec l'Allemagne. Lui qui est grabataire, qui est quand même, à ce moment-là, parce que vous avez dit qu'il était en pleine forme, il l'est en 43, les pages sur Hegel, c'est 43. Il y a quand même une catastrophe d'Alain, fin 40, début 41. C'est clair.
Physique, on lit la physiologique. Meuf. Il a publié des
lisez
livres
les textes.
Après,
après oui, il ressuscite.
Ah, il en ascense. C'est drôle,
non,
ça.
Non, non, lisez les textes.
Il est mort, il est ressuscité. Quand il est mort,
vous
il
voulez
est
que je vous lise certains passages de 41?
Non, non, mais
c'est pas les passages antisémites.
Tout à l'heure, vous parliez de Bergson, j'ai retrouvé la citation, vous dites il ne le juge pas, il dit, en réalité, quand je lis avec indignation le mauvais style de Bergson, si c'est pas un jugement de valeur, je n'oublie pas qu'il est juif, etc.
En cela, je me sens injuste.
Oui, mais je vais y arriver.
En cela, je me sens injuste.
Oui, mais je vais y arriver. Attendez. Il me semble qu'il faut être juif pour écrire aussi mal. Etc. Alors, comment est-ce qu'on peut être Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Mais ça se fait beaucoup, vous savez, chez les intellectuels, entre le discours privé et le discours public, entre ce qu'on pense véritablement et ce qu'on tient comme discours pour occuper le champ social, s'il faut parler le langage de Bourdieu. Alain, quand il s'agit d'être public, sait qui il est. Alain continue à être Alain, c'est l'élément d'une doctrine radicale, c'est un homme de gauche, c'est un radical socialiste, et il veut pas s'assimiler aux gens, aux antisémites qui sont eux plutôt classés à droite. On a encore du mal aujourd'hui avec l'antisémitisme de gauche, hein. Donc effectivement, les antisémites de gauche, pendant très longtemps, ils se sont tus, maintenant on commence à voir où ils sont avec l'islamo-gauchisme. Mais moi je ne suis pas du tout gêné par le fait qu'il y ait deux Alain qui soient le même personnage, un qui dans son journal, dans lequel il dit d'ailleurs « je veux être jugé sur mon journal ». C'est pas
oui,
un propos
Michel
violent, enfin, non. Attendez, juste qui dit une chose privée et intime et qui fait savoir qu'il est antisémite et qui, après, publiquement, ne le dit pas. Donc, vous avez effectivement beau jeu de faire savoir qu'il n'y a aucun texte antisémite d'Alain qui ait été publié, ce qui ferait la preuve qu'il ne serait pas antisémite. Et puis, ce journal qui montrerait de l'antisémitisme et qui montrerait que, finalement, parce qu'il a des rhumatismes, ça lui ferait dire des bêtises.
Je
vais vite, mais quand vous dites qu'il y a un effondrement et qu'il est ressuscité...
Je n'ai pas dit. Ça correspondait
physique,
et intellectuel, mais qui ne correspond pas forcément.
Des effondrements physiques qui ne m'ont pas rendu antisémite pour autant.
Oui, mais il y a un effondrement intellectuel d'Alain aussi. Non. Simplement, ça ne coïncide pas. Je n'en fais pas un argument parce que ça ne coïncide pas avec les passages antisémites et tout. Mais il y en a un. Lisez les textes de 41 et la peinture de Marie.
Il a publié après-guerre.
Mais pas du tout, parce que justement, en 43, il est revenu.
Mais oui, mais il écrit des textes pendant cet effondrement sur Dickens, sur Balzac, sur Tyndall, qui ne sont pas des textes.
43, 44, 45.
Des publications.
Après.
Oui, mais attendez, vous dites Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je crois que le journal d'Alain ne confirme pas tout à fait cette opposition. Parce que quand il parle de son antisémitisme, il dit « c'est une pulsion, je devrais pouvoir m'en défaire, je n'y arrive pas ». C'est-à-dire que jamais Alain ne théorise son antisémitisme. Il dit dans son journal qu'il s'y abandonne et en fait qu'il a tort. Il dit même à un moment donné qu'il était horrifié par l'antisémitisme de l'agneau. Donc c'est un problème qu'il a, c'est une sorte de maladie qu'il voudrait bien soigner. Donc on ne peut pas dire que dans son discours public, il dissimule un antisémitisme qu'il déploie, qu'il expose, qu'il répand dans son journal, parce que même dans son journal où il en parle, il est gêné par ce phénomène qu'il sent en lui et qu'il n'arrive pas complètement à surmonter. C'est pas tout à fait Mr. Hyde.
J'ai déjà répondu à votre question tout à l'heure, en vous faisant savoir que son antisémitisme le gênait parce que il pouvait être assimilable à l'antisémitisme du bourgeois de Château-Gontier.
Ça, c'est votre interprétation.
Ben, c'est ce qu'il dit lui. J'ai cité un texte, je vais pas le relire. J'ai cité un texte. Enfin, les auditeurs pourront s'en rendre compte. Il dit qu'effectivement, l'antisémitisme du notaire de province de Château-Gontier où il était précepteur ne peut pas être son antisémitisme à lui, parce que lui, il est un lecteur de Hegel.
Ça ne veut pas dire
qu'il
éprouve
le sien. Et que quand Hegel nous dit qu'effectivement, les Juifs sont le peuple de l'esprit, il nous dit c'est bien ça la misère. Parce qu'effectivement, il n'y a que l'esprit. Les Juifs sont des gens de culture, sont des gens du livre, sont des gens qui sont dans la cérébralité. Et ça, dans l'esprit d'Alain, c'est pas bien. Lui qui fait l'éloge du paysan, du personnage qui est enraciné.
Sauf qu'il dit quand même, j'aimerais bien être débarrassé de l'antisémitisme, mais je n'y arrive pas. Donc, c'est vrai. Mais je voudrais maintenant qu'on en vienne, justement, au radicalisme d'Alain. Parce que là, je trouve qu'il y a une sorte de postérité ignorée du philosophe Alain, alors que je le disais tout à l'heure, cette philosophie me paraît très courte et peut-être même très inquiétante. J'ai été très impressionné par un article écrit par Raymond Aron dans ses Écrits de guerre, si vous voulez, sur Alain et contre Alain. Alain dont il a été l'élève. Alain qui a été pour lui, comme pour beaucoup d'autres, un éveilleur. Mais quand même, il n'aime pas, il trouve déplorable qu'Alain ait convaincu une partie de l'opinion de gauche que l'opposition morale du citoyen au pouvoir apportait la meilleure garantie des libertés et de la paix. Et justement, il dit ceci, Alain, et ça rejoint notre discussion sur le pacifisme, sur la montée des périls. Alain travaillait à affaiblir encore l'État français, alors que dans les pays voisins s'établissaient des régimes autoritaires et que des religions grossières soulevaient l'enthousiasme de millions de fidèles. Parce que si c'est le citoyen contre les pouvoirs, eh bien une bonne démocratie, c'est une démocratie où le pouvoir est faible, où le pouvoir est surveillé, où le pouvoir est entravé. Et peut-être n'était-ce pas le moment, dans les années 30 précisément, d'entraver le pouvoir. C'est ce que dit Raymond Aron, et ça pourrait rejoindre votre critique du pacifisme d'Alain, Michel Onfray.
Oui, alors je le critique pas, j'essaie de le mettre en perspective. Je dis à un moment donné qu'il faut être dans l'esprit de Spinoza, ni rire ni pleurer, mais comprendre, dire que les textes sont là, dire qu'il y a eu une errance, dire qu'effectivement il s'est comporté comme il s'est comporté, il a écrit ce qu'il a écrit, il a dit ce qu'il a dit. Moi je défendrai sa politique parce que je pense qu'il est anti-jacobin, il est anti-parisien, il est rural, il est provincial, il est girondin d'une certaine manière, et il croit au pouvoir contrôleur. Ça me va tout à fait. Et dans les propos politiques, dans politique, les propos politiques, éléments d'une doctrine radicale, le citoyen contre les pouvoirs, qui sont quand même des grands textes politiques pour moi, et oubliés et négligés, il faut les sortir un peu de la gangue de l'actualité. Les scrutins d'arrondissement, des références à des gens dont on a oublié jusqu'au nom, sauf les historiens. Mais je veux dire qu'il y a une conception politique qui n'est évidemment pas jacobine. Alors, il n'y a pas de vision géostratégique internationale chez Alain. Là, je parle sous votre contrôle, parce que vous connaissez mieux que moi. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui pense l'univers en disant il y a une géostratégie à voir avec les grands éléments ou avec ce genre de choses. C'est quelqu'un qui reste un rural, un paysan, un percheron. D'ailleurs, il dit percheron autre que normand. C'est vraiment sa terre, ce sont ses racines. Il estime qu'il y a un bon sens populaire du côté des paysans et que le pouvoir devrait exister avec des gens, effectivement, qui sont des représentants. C'est pas quelqu'un qui est pour une démocratie directe. Mais il estime que le pouvoir doit pouvoir être contrôlé. Et il parle du pouvoir contrôleur. C'est très Montesquieu. C'est très dans l'esprit de Montesquieu. Et en ce sens, oui, c'est peut-être pas bienvenu dans un moment de montée des périls en Europe, ça c'est sûr, mais dans un projet politique un peu alternatif, parce qu'il résiste à l'industrialisation, il résiste à l'urbanisation, il résiste à la modernité, même s'il résiste à Freud parce que Freud est juif, même s'il résiste à la relativité d'Einstein parce qu'Einstein est juif. Il le dit.
Mais non.
Il le dit très précisément. Dans les textes dont vous dites qu'ils ont été publiés et qui n'ont jamais été antisémites, il y a quand même des propos concernant la relativité d'Einstein, dans laquelle
absolument
il nous fait...
Il y a un propos sur Braunschweig, où Alain se demande, et je suis d'accord que c'est un propos, là pour le coup, antisémite, mais pas sur Einstein, il y a un propos sur Braunschweig, où il se demande pourquoi Braunschweig était pour Einstein, et où il dit « par solidarité de race ». Alain n'a jamais eu un mot contre Einstein. Einstein est un grand savant. Alain applaudit quand la France propose la chaire du Collège de France à Einstein, où il n'a jamais voulu entrer. Et ce que n'aime pas Alain, c'est ce qu'il appelle la vogue des Einsteiniens, c'est-à-dire tous ces gens qui, à partir de travaux auxquels ils ne comprennent rien, prétendent réformer des concepts qu'ils maîtrisent mal. Einstein, il le laisse là où il est, il fait un travail scientifique de premier ordre et il le reconnaît. Après, il se demande pourquoi des intellectuels qui n'ont jamais compris un théorème de physique disent « c'est Einstein qui est dans le vrai », et là il dit « ce sont des plaisantins ». C'est pas Einstein qui est un plaisantin.
Mais cet argument de la solidarité de race est
quand même absurde. Ça, c'est un argument antisémite contre Braunschweig, bien sûr.
Oui, c'est vrai. Là, nous sommes d'accord.
Et contre Einstein aussi. Non. Enfin, je suis en train de rechercher la citation.
Alors, pendant que vous cherchez, je vais prolonger mon objection quand même.
Je l'ai trouvé.
Alors, allez-y.
C'est un propos daté de 1922. Il explique, Alain, algébriquement, tout est correct. Humainement, tout est puéril.
Oui.
Bah, dites donc.
Algébriquement, c'est-à-dire techniquement, physiquement et
mais humainement, tout est puéril.
Humainement, c'est-à-dire
que mathématiquement, quelque chose puisse être vrai en même temps que
parce
puéril.
Parce que si vous essayez de traduire
juste, attendez,
en termes...
Il n'a fallu qu'un jeu de miroir pour qu'Einstein remplace soudain toutes nos idées par quelques formules qui n'ont point de sens.
Trouvez le
L'espace courbe et le temps local font carnaval.
Trouvez le mot juif.
Bah, évidemment, si vous cherchez le mot juif et que vous ne le trouvez pas en estimant que quelqu'un qui nous
donc,
dit...
Quand on formule quelque chose, Einstein... D'abord, qui ne concerne pas Einstein, parce qu'Einstein est un savant. La question d'Alain, c'est de se dire, est-ce que la révolution scientifique d'Einstein peut nous apprendre quelque chose, peut modifier notre façon de percevoir, etc. Humainement, c'est ça que ça veut dire.
Braunschweig excelle à réfléchir sur Attendez. Sur ses propres préjugés. Ces hommes-là, il s'agit des juifs.
Non, il s'agit des universitaires. Lisez le texte dans
vous
l'ordre.
Rigolez.
Lisez les lignes qui précèdent.
Je vous donne Braunschweig, puis après vous allez voir Einstein. Comme par hasard, ils sont juifs. Hein. Ces hommes-là sont très faciles à conduire. On leur donne des préjugés et on les laisse
les
fermenter. Mais vous rigolez.
Braunschweig
était pour Einstein. Pourquoi? Non, mais attendez, à chaque fois, c'est comme ça. Je veux dire, on sort une phrase, il faudrait sortir la page, il faudrait sortir le chapitre, on sort le chapitre, et il faudrait en direct, Charles Finkielkraut, lire les 1000 pages du journal.
Je renvoie
et encore,
au journal où il est question
que,
des universitaires.
Attendez, Braunschweig était pour Einstein. Pourquoi? Par préjugé de race.
Oui,
et enfin, parce que personne n'osait dire sa pensée.
Où est l'attaque
personne
contre
n'osait
Einstein
dire sa...
Où est l'attaque contre Einstein?
Je vais vous relire ce que je viens de lire en dessous. Algébriquement, tout est correct. Humainement, tout est puéril. Jeu de miroir. Formules qui n'ont point de sens. L'espace courbe et le temps local font carnaval. Alors évidemment, il dit pas parce qu'il est juif, mais il le dit
mais
très précisément.
Il parle
plus
même
tard,
pas
d'Einstein.
Ailleurs. Oh, bah, écoutez, vous connaissez pas les sciences. Vous ne connaissez pas les séquences de la science de la société de philosophie.
Je ne me demandais pas de commenter un autre texte que celui-ci. Je vous dis, on a un texte dans lequel Alain nous dit Einstein est juif, donc la relativité est une science juive.
Vous ne m'avez pas lu
un
texte
comme
ça.
Mais c'est moi qui vais plus vite pour éviter. Pour éviter les commentaires du genre. Il n'a pas dit juif. Le mot juif ne s'y trouvant pas, il n'est pas antisémite. Il nous dit juste que scientifiquement c'est vrai, mais qu'humainement il ne peut pas accepter, sous-entendu parce que c'est un juif, comme Braunschweig était un juif.
C'est vous qui mettez sous-entendu, nous sommes d'accord.
Alors, à ce moment-là, dans
le Lyon, il faut quand même pas aller trop loin, parce qu'il y avait une certaine proximité entre Alain et Braunschweig. Je veux dire, Alain avait des amis,
Léon
Braunschweig en faisait partie, Elie Halévy était un des grands amis d'Alain, donc on peut pas non plus dire que son antisémitisme lui aliénait les grandes personnalités juives de l'époque.
Vous savez très bien que les antisémites ont des amis juifs et qu'il y a des racistes qui ont des amis noirs.
Oui, d'accord, mais c'est le même, en l'occurrence.
C'est
le même, c'est ça qui est intéressant, c'est Braunschweig. Non, mais là, je voudrais revenir. Moi, j'ai pas du tout envie de défendre Alain, notamment sur ce thème. Vous pouvez bien le comprendre. Mais je voudrais revenir quand même à cette question, de la politique d'Alain. Parce que, Raymond Aron, ajoute, justement, contre Alain, dit que il ne faut pas voir dans l'État un ennemi, mais la condition de l'existence privée et l'expression du vouloir collectif. Ce que veut le citoyen, ce sont des pouvoirs légitimes, mais capables d'action, pas simplement des pouvoirs surveillés. Le citoyen ne s'accomplit pas dans la lutte contre les pouvoirs, mais dans une libre adhésion à la communauté. Je trouve cette critique extrêmement pertinente, et il me semble qu'elle vaut pour aujourd'hui, où Alain inspire justement une... Enfin, on retrouve, plutôt l'inspiration d'Alain dans la critique généralisée des pouvoirs et notamment du pouvoir régalien. J'ai sous les yeux le livre de Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, et il dit ceci, qu'aujourd'hui, au peuple électeur du contrat social, se sont surimposées de façon toujours plus active les figures du peuple surveillant, du peuple veto et du peuple juge. Surveillant, veto, juge, pour limiter sans cesse le pouvoir de l'État, et à un moment aussi où, je dirais pas que nous sommes en guerre, mais nous sommes en butte à des problèmes, à des violences toujours grandissantes. Et il y a beaucoup de gens pour qui, effectivement, l'État démocratique, c'est l'État toujours plus ligoté. Donc c'est le triomphe posthume d'Alain, alors même que la situation exigerait, me semble-t-il, un tout autre rapport au pouvoir pour que nous soyons capables de faire face à la situation qui est la nôtre. Michel Onfray, Emmanuel Bondel.
J'aurais deux remarques à faire. La première, c'est que Alain n'est pas un théoricien de la résistance au pouvoir. Alain n'a pas... Les pouvoirs sont élus, ils sont légitimes. Quand le bloc des gauches échoue, la droite arrive au pouvoir, Alain ne dit pas que le gouvernement est illégitime, il le laisse gouverner. Simplement, il éduque la conscience des citoyens, il critique, effectivement. Le peuple a un droit de contrôle. Veto ne me va pas du tout. Jamais Alain ne dit, mais descendons dans la rue et mettons fin à ce gouvernement. Le gouvernement est légitime, simplement, si on trouve qu'il a tort, on le dit, et c'est quand même démocratie que de juger avec liberté les actions d'un gouvernement. Un gouvernement qui pense que si on le critique, il se trouve par là même affaibli, c'est un gouvernement qui n'a pas les moyens de se défendre. Enfin, la devise du Figaro, il me semble, c'est bien « sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ».
Alors, vous serez d'accord avec ça, peut-être?
Oui.
Michel Onfray, donc on terminerait sur une consonance. Alors, très vite, la conclusion, Michel Onfray.
Sur quelle question, pardon?
Mais sur la question, justement, du rapport au pouvoir. Et est-ce que, finalement, aujourd'hui, Alain triomphe à travers cette exigence grandissante de transparence et de surveillance?
Je ne crois pas, parce que moi, j'ai été 20 ans prof dans un lycée et j'avais les plus grandes difficultés à essayer de faire comprendre à mes élèves une phrase d'Alain qui sortait souvent au baccalauréat, dans laquelle Alain invitait à résister en obéissant. Et ça, pour les élèves, si on résiste, on n'obéit pas. Si on obéit, on résiste pas. Et quand Alain nous dit qu'il faut résister en obéissant, il dit que effectivement votre hypothèse ne peut pas être validée parce que effectivement d'abord on obéit et ensuite on résiste. Il reste très kantien en ce sens. Hein, le sapere aude de Kant, c'est ça. C'est vous obéissez puis après vous gardez votre esprit critique.
C'est merveilleux. Nous terminons sur une citation d'Alain et une citation que vous reprenez qui plus est à votre compte, Michel Onfray. Alors merci beaucoup pour cette discussion très éclairante. Michel Onfray, je rappelle le titre de votre livre aux éditions de l'Observatoire, Alain les Juifs, Solstice d'hiver, Alain les Juifs, Hitler et l'Occupation, le journal inédit d'Alain est publié avec une présentation d'Emmanuel Blondel aux éditions Équateur. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Mai 68 dans le texte ». Mes invités seront Ludivine Bantigny et Emmanuel Loyer. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Célia Dufour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.